Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun, à la régie Henri, pour notre émission Histoire et Mémoire. Nous accueillons à nouveau Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Et Jean-Claude va nous parler aujourd'hui d'une histoire ça remonte à un siècle maintenant au départ. Et alors, nous t'écoutons.
Oui, bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui, et pour démarrer l'émission, ce qui n'est pas chose grande, nous allons parler d'un monsieur qui est décédé il y a longtemps, qu'on aurait pris pour, disons, un fantaisiste, un comédien, un comique, qui s'appelait Monsieur Fernand Reynaud. Et en fin de compte, Monsieur Fernand Reynaud était peut-être un philosophe prémonitoire, on ne le voit pas sous cet angle. Et je voudrais, avant d'introduire donc l'histoire que je vais vous conter tout à l'heure, ce qui l'avait mis souvent sous antenne avec succès. Ça s'appelait L'étranger. Et dans un village, il dit, dans mon village, il y avait un homme, là, qui n'était pas de chez nous. Et d'abord, bon, il n'était pas noir, mais il n'était pas blanc. Il était un peu café au lait. On ne sait même pas d'où il venait. Et puis, quand on le voyait, quand on le croisait, on ne lui disait pas bonjour, parce que c'était un étranger. Et puis les femmes, quand elles le voyaient venir dans la rue, m'a fermé les volets. Nous, les étrangers, on les aime pas dans le village. Alors, ce monsieur-là, il nous embêtait quand même. Et puis, à chaque fois qu'on le voyait, on tournait la tête. Et puis un matin, il avait disparu. Ah, oui. Mais là, il y avait un problème. Parce que depuis ce jour-là, on n'avait plus de pain frais. C'était le boulanger. Donc, on voit bien que dans un village, dans une ville, nous sommes tous solidaires et que nous avons besoin, quelle que soit notre couleur de peau, nos origines, nous avons besoin de nous aider et nous entraider. Et nous avons des exemples encore beaucoup plus près de, c'est ce qu'on appellerait des étrangers qui viennent dans notre pays. Nous avons, et nous allons parler d'un médecin tout à l'heure, nous avons en France aujourd'hui 22 500 médecins qui sont, disons, étrangers. Et la plupart de ces médecins, s'ils n'étaient pas là, nous manqueraient terriblement parce qu'on ne pourrait plus soigner. Alors je voudrais revenir à cette histoire qui s'est passée dans les années 1930. Et comme c'est une histoire extrêmement pathétique, je voudrais citer Bernanos, Georges Bernanos, qui illustre complètement cette histoire. Les martyrs ont été jusqu'au bout de la souffrance, nous leur devons d'aller jusqu'au bout de la vérité. Alors, tout près de Châteaudun, la famille Weisbuch est arrivée à Arroux en 1931. Docteur Weisbuch, Avraham, venant de Roumanie, où il était né en 1904 à Romans. Il est accompagné de sa jeune épouse, Lucia, qui était née en 1913. À cette époque, la commune d'Arroux ne trouvait pas de médecin pour s'installer. Et quelle aubaine! Il est le bienvenu et il va exercer dès le début du mois de janvier 1932. C'est un jeune couple qui s'installe dans ce gros village du Perche, qui compte 2500 habitants. Et il a 7 ans, et son épouse a 18 ans. C'est le 13 août 1933 que naîtra Liliane, la première fille de Lucia et Avram. Lors du recensement de 1936, on trouve cette famille au 20 de la Grand-Rue. Cette même année, Liliane entre à l'école d'Arroux, 1936, le jour du 1er mai. Les turbulences en Europe et les propos antisémites du chancelier Hitler inquiètent Avram, qui demande la nationalité française pour lui et sa famille. Le journal officiel du 20 août 1939 confirme, par le décret du 9 août, en application de la loi du 10 août 1927, que les Weisbuch sont tous trois devenus citoyens français. En ce jour du 9 août 1939, signé par le garde des Sceaux Marchandon, et fait copie conforme à Arroux le 18 septembre 1939 par le maire Joseph Chaudin. Donc, en 1939, compte tenu du manque de médecins, le docteur Weisbuch se voit attribué par le préfet Jean Moulin, arrivé à son poste en février, un large secteur comprenant Saint-Hilaire-sur-Yerres, Saint-Pèlerin, Saint-Denis-les-Ponts, Lanneret, Langeais, Douy, Courtalin, Châtillon, Arroux, Boisgasson et Chapelle-en-Royal. C'est un travail colossal. Hélas, les Allemands contrôlent le secteur d'Arroux depuis le 18 juin, parce qu'ils sont là, ils sont arrivés. Et toute la zone est déclarée occupée et placée sous l'autorité allemande. En juillet 1940, brutalement, la nationalité française est retirée à la famille Weisbuch. Par révision de la loi du 10 août 27, en application de l'article, à tout médecin, chirurgien, dentiste ou pharmacien d'exercer, s'il n'a pas la nationalité française à titre originaire, il existe bien un certain nombre de dérogations, mais leur caractère laisse libre cours à l'arbitrage, sur proposition du secrétaire général à la santé publique, qui peut autoriser ceux qui ne remplissent pas la condition prévue par l'article 1, etc., etc. Comme on dirait déjà un mot un petit peu de pistonnage. Le maire d'Arroux, sentant le danger couru par la famille Weisbuch, délivre un certificat en date du 10 novembre 40 au docteur, par laquelle il atteste les services rendus à la population par cet homme dans le cadre de ses fonctions, en rappelant que c'est à la demande du conseil municipal que le docteur Weisbuch est venu s'installer à Arroux. Le docteur Weisbuch intervient le 5 janvier 1941 à Châtillon pour examiner un bébé de 16 mois qu'un père indigne laissait sans nourriture et sans vêtements. Hélas, la loi est appliquée sans discernement. Il est informé le 8 mai 1941 qu'il lui était interdit d'exercer la médecine. En conséquence de quoi, le docteur Weisbuch devra cesser toute activité alors qu'il n'y a pas d'autre médecin dans la commune. Mais Avram continue de servir ses concitoyens. On lui confisque sa voiture. Rendez-vous compte avec le secteur qu'il a. Soit, il continuera ses visites à bicyclette, comme un médecin que je connais d'ailleurs. Alors, le conseil de l'ordre du département 28 le dénonce au préfet, que Vichy a mis en place après Jean Moulin. Évidemment, il ouvre une enquête contre le docteur Darroux pour exercice illégal de la médecine. En conséquence de quoi, le préfet d'Eure-et-Loir, constatant que le docteur Weisbuch ne respecte pas la loi, arrête le 23 juin que le docteur Vesbuche est interdit de résidence en Eure-et-Loir, que le nommé Vesbuche sera bien interné administrativement au camp de Châteaubriant, que ces dispositions sont immédiatement exécutoires, que le commandant de gendarmerie d'Eure-et-Loir est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté. C'est vrai, le docteur Vesbuche n'a pas caché que cette interdiction ne pouvait être que temporaire et prendrait fin dès que la victoire anglaise serait renversée, ce gouvernement de Vichy. Ces propos prémonitoires n'étaient pas du goût des fonctionnaires du maréchal et n'arrangeaient pas, hélas, la situation du docteur. Le 28 juin 1941, il est interné au camp de Châteaubriant, où sont déjà détenus les juifs et les communistes de la région. Entre parenthèses, il y avait un de mes grands-oncles qui était avec lui à Châteaubriant. Le 16 juillet 1941, le docteur Vesbuche est autorisé à rejoindre sa résidence de Tours, où il est assigné. Et cela est confirmé par un arrêté qui le place en résidence surveillée au 24 rue de Paris à Tours. Il n'est pas libéré, malgré l'appui du président du Conseil de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loir, et n'est pas réintégré en Eure-et-Loir. L'avis de l'Ordre des médecins lui interdisant d'exercer est maintenu. La 8e ordonnance concernant les mesures contre les Juifs du 28 mai 1942, elle est signée de François de Brinon, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Führer, commandant suprême de la Wehrmacht, j'ordonne, précise le port obligatoire d'un insigne spécial pour les Juifs, une étoile jaune, sauf autorisation particulière. Publié le 30 mai, cette ordonnance entre en application le 7 juin. Et dès le 11 juin 1942, Lucia Vesbuche reçoit 3 insignes pour elle-même et 3 pour sa fille Liliane. Marie-Vonne en est dispensée car elle a moins de 6 ans. Madame Vesbuche, qui a beaucoup intercédé pour la libération de son mari, notamment par un courrier du 11 août 1941, adressé au préfet de Eure-et-Loir, qui n'est pas particulièrement tendre pour les habitants de confession israélite dans son département, elle lui écrit « Je viens vers vous, car je sais que vous êtes bon et juste. » Elle a pris beaucoup de risques. Et le 10 juin 1942, elle est arrêtée et dirigée vers la prison allemande de Chartres. Puis, acheminée vers le triste camp de Pithiviers-Boulnaroland. C'était quelques jours avant la grande rafle du Veldiv. Les SS vont alors lancer leur déportation massive vers l'Est. On trouve un message téléphonique de la gendarmerie de Courtalin, le 10 juillet 1942, qui écrit « Les femmes Koutman de Courtalin et Vesbuche d'Arou ont été arrêtées par les autorités allemandes. Les enfants de la femme Vesbuche ont été laissés en liberté, 8 ans et 1 an et demi. Et il y a un des gendarmes qui a ajouté à la main, au crayon, téléphoné aux mères pour les enfants, ceux-ci sont chez des amis. » Le convoi numéro 6 quitte le camp de Pithiviers avec un contingent de 809 hommes et 119 femmes, dont les femmes Koutman et Vesbuche, à 6h15 du matin le 17 juillet et arrive le 19 juillet à Auschwitz. Il y aura 45 survivants de ce convoi en 1945. Lucia Vesbuche serait morte du typhus à 29 ans au camp de Birkenau. À la fin du mois de septembre 1942, nous ne savons pas si elle avait revu son mari, qui avait été déporté le 20 juillet 1942 par le convoi numéro 8, parti d'Angers à 20h35 pour Auschwitz. On déclare aussi Avraham mort du typhus le 7 septembre 1942. De ce convoi, il restera 20 survivants en 1945. Les deux petites Wetzbuch, Liliane et Marie-Vonne, sont confiées à M. et Mme Renvoisé le 13 juillet 1942. Et évidemment, elles n'iront plus à l'école. Parce qu'il faut les soustraire, les cacher, et surtout, surtout, éviter qu'il y ait des dénonciations. Donc, ces deux petites, de 8 ans et 1 an et demi, vont être, entre guillemets, promenées de ferme en ferme autour d'Arroux. On ne va pas les laisser toujours dans le même endroit parce qu'il y a vraiment trop de risques. Le maire d'Arroux, à l'époque, qui, évidemment, est un maire pétainiste, puisque les maires sont désignés par le gouvernement de Vichy, est tout près de respecter les consignes préfectorales. Parce que si on suit les consignes préfectorales, que dit le préfet d'Eure-et-Loire le 1er août 42 ? Les mesures prises contre les Juifs sont dans l'ensemble approuvées. La majorité rend les Juifs responsables pour une grande part de nos malheurs et estime juste et opportune les mesures de regroupement prises contre eux. Certains ne manifestent d'ailleurs leur opposition que parce qu'ils voient dans ces mesures les ordres des autorités d'occupation. Ce n'est pas une preuve de sympathie en faveur des Juifs, mais plutôt une manifestation de xénophobie, signée le préfet d'Eure-et-Loire. Pour information, pour lui, il sera fusillé à la Libération. Par contre, dans le département voisin, à quelques kilomètres donc de Cloix, chez Madame Piedalu, deux petites juives sont cachées et personne ne dénoncera. Elles feront toute la guerre là-bas. À Châteaudun, il y aura notamment, tout près de Châteaudun, à Civry, une petite juive de cachée. Et pourquoi a-t-elle été cachée là-bas ? Elle a été cachée chez Madame Leroux. Et on a bien connu la fille de Madame Leroux à la paroisse, c'était Madame Pinsard, Henriette Pinsard, qui a connu cette petite juive, qui s'appelait Gutmann. Et cette petite juive était arrivée là-bas parce que Madame Leroux connaissait une sœur de notre école religieuse de Châteaudun qui avait fait le nécessaire pour que cette petite Gutmann soit cachée ici. Donc, nous en avions une petite qui était cachée à Civry et nous avions d'autres enfants de cachés à Montigny. Évidemment, ils ont été récompensés par les justes. Mais le préfet du Loir-et-Cher, qui était quand même le département voisin, puisque Saint-Jean-Froidmantel, c'est à 1 kilomètre de la limite, et M. Piedalu travaillait en Eure-et-Loire, le préfet du Loir-et-Cher est beaucoup plus nuancé. Préfecture du Loir-et-Cher, le 1er août 42, même jour. Deux choses ont cependant profondément troublé l'esprit des populations. Ce sont les allocutions du chef de gouvernement d'abord, les arrestations massives de juifs ensuite. Les arrestations de juifs qui ont eu lieu dans toute la zone occupée et plus particulièrement à Paris ont soulevé la réprobation et l'indignation générale. Certes, les juifs ne bénéficient d'aucune réelle sympathie, mais les procédés employés à leur égard sont jugés inhumains et inacceptables. Ils ont provoqué indiscutablement une nouvelle vague de haine profonde contre l'occupant, contre laquelle il s'avère difficile de lutter. C'était signé de M. le préfet du Loir-et-Cher. Pendant ce temps, les petites Vesbuches sont toujours chez M. et Mme Renvoisé. La tragédie, hélas, ne s'arrête pas là. Le mercredi 23 février 1944, il est 7 heures du matin, deux hommes en civil frappent à la porte des parents adoptifs qui hébergent Liliane et Marie-Yvonne. Ils arrêtent les deux fillettes de 10 et 3 ans et demi, les mettent dans un camion qui se dirige vers la prison de Chartres, puis vers Drancy. À Roux, c'est la consternation. Elles feront partie du convoi numéro 69 qui partira de Paris-Bobigny, composé de 1501 déportés, dont 812 hommes et 689 femmes. Il y aura parmi eux 178 enfants de moins de 18 ans. Il y aura à l'arrivée 110 hommes de sélectionnés et 80 femmes. On retrouvera 20 survivants. En 1945, les deux fillettes, immédiatement arrivées à Auschwitz, seront gazées le 12 mars 1944. Et on pourra citer Malherbe, elles ont vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un instant. Alors on fonde de Clouat, de Châteaudun, de Bonneval. Ayez une pensée pour ces deux petites Vesbuches. Ce médecin qui était venu en France pour soulager la douleur, la peine, pour aider les Français et qui ont payé de leur vie simplement parce qu'ils étaient juifs. Nous pouvons dire, hélas, que les deux petites Vesbuches n'ont pas été seules à subir cette atrocité. Le même jour, ont été arrêtés dans les environs Alain et Diane Bétief, 4 ans, de la Croix-du-Perche, Freeman Charles, de 7 ans, Kaufmann Jean, de 3 ans, Surkis Maurice, de 10 ans, et Spitalich David, de 3 ans, de Yèvre. Quand on voit cela, c'est l'horreur des enfants qui meurent et hélas, dans les jours que nous vivons, nous savons que des enfants, que des femmes en 2022, meurent non pas dans les camps, mais meurent sous les bombes. Alors, ayons une pensée pour eux.